40 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Steve Waterhouse, notre nouveau podcasteur résident.
Bonjour Nicolas.
Ça va bien?
Ça va être une bonne semaine, ça a été une belle semaine. On va rendre ça plus agréable.
On va faire les gros efforts de ce côté-là. On va commencer avec les shameless plugs. Cette semaine, c'est le 24 mai Québec Sec, Wifi Medley. Le 29 mai, Isaacan Québec avec la journée du CSX. 25 juin à King in Paris et 30 juin, la nuit du hack. Cette semaine, on va commencer une nouvelle qui fait beaucoup jaser, du moins à Québec. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'à Montréal, mais 6 étudiants d'école secondaire privée, les Parmaris, ont été suspendus, puis ensuite ont été mis en accusation par la police pour la possession de pornographie juvénile. Ces 6 jeunes-là, on se sont échangés des photos de 2 ou 3 autres étudiantes d'âge similaire aux arts, c'est-à-dire 12-13 ans. Et jusqu'à la plainte des dites étudiantes, ils ont été sanctionnés sévèrement. As-tu un...
C'est un problème sociétaire dans le sens que on a de plus en plus, on entend parler que là, surtout qu'il y a des gens de congrégation... Puis là, c'est peu importe la religion, je veux dire. Avant ça, c'était des cercles fermés où ce que c'était tout est gardé à l'intérieur, puis on n'en parle pas, c'est bouche cousue, c'est comme ça que ça se passait. Puis là, de plus en plus que les groupes fermés s'ouvrent. On parle de milieu, peu importe le milieu. On a vu ça, on va dire, avec des institutions comme les services de police, où ce qu'avant ça, les policiers se protégeaient plus entre eux autres. S'il arrivait quelque chose, ça restait à l'intérieur, puis tout le monde s'arrangeait pour que ça soit réglé, puis qu'on n'entendait pas parler sur la place publique. Maintenant, tout est ouvert. Même chose chez les forces armées, même chose avec les grosses compagnies. Avant ça, les gens se protégeaient à l'interne, puis là, ça saute. Fait que les congrégations religieuses, de dire que voici, il y a des gens...
Juste corriger, c'est pas une congrégation religieuse, c'est une école qui est quand même, je pense, laïque. C'est pas des choses, c'est des étudiants qui ont été pincés en train de s'échanger des textos avec des autres étudiants tout nus.
Ah ben là, je faisais peut-être référence à une autre histoire que j'ai eue en tête récemment, là, c'est que justement, entre étudiants, ça va rejoindre qu'est-ce que je vais compléter de bord mon explication, c'est que autant qu'avant ça, on avait des organisations, parce que tout était fermé, tout était gardé à l'intérieur, puis là, ça se rouvre progressivement, puis aussitôt qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qu'il leur arrive quelque chose de pas correct, pour pas dire illégal, voire après ça, immoral, à ce moment-là, c'est rapporté pour encore là, ça soit ventilé et que les gens puissent s'éduquer là-dessus. De là à dire qu'on arrive avec le contexte étudiant, ça aussi, c'est un gros phénomène où encore là, des événements dans la cour d'école qui se produisent, souvent restaient dans la cour d'école et par l'informatisation, d'où ce que les technologies de l'information ont amené la cour d'école à sortir de son lieu géographique et maintenant elle est disponible partout sur la planète. C'est ça qui fait, c'est un phénomène qui est très choquant selon moi parce que si on recule là, 15 ans, ça sortait moins, puis évidemment, les jeunes n'avaient pas autant accès à la technologie qu'on l'a aujourd'hui, ce qui fait en sorte que ça restait quand même à l'intérieur de chacun des cercles sociaux. Là. Puis je dis « les » parce que ça peut être une équipe d'hockey, ça peut être un autre genre de place, et là, on parle encore là dans une école. Fait que je trouve du dommage, puis c'est un mal nécessaire d'amener la technologie jusque dans la cour d'école, pour pas dire dans la classe, mais en même temps, je crois que c'est une grande distraction, et par distraction, il y a aussi une éducation qui est absente, parce que si les jeunes ne savent pas comment utiliser, puis je crois pas que les gens veulent savoir comment l'utiliser. Ils font tout simplement, ça lui est donné et ils s'en servent, mais ils s'en servent encore pour faire quoi? Fait qu'en l'absence de moralité, en l'absence d'éthique, ils font n'importe quoi, puis on retrouve des situations comme ça, je crois.
Oui, tout à fait. Puis de toute façon, éduquer les jeunes, dans ce cas-ci, minimalement les jeunes filles, de ne pas envoyer des photos nues d'elles à d'autres personnes, même si c'est d'autres filles ou d'autres personnes de confiance. Parce qu'une fois qu'on a lancé ces choses-là dans l'univers, on en perd le contrôle de façon définitive. Et des éléments comme ça peuvent se passer.
Tu l'as bien dit, Nicolas, parce que une fois que c'est envoyé dans l'univers de l'Internet, pour pas dire les Internets, c'est là que malheureusement on en perd le contrôle. Puis de dire oups, j'ai fait une erreur, faut aller le rechercher. Désolé, les mécanismes pour aller retrouver et annuler une transmission, sont pas tout à fait au point. Mettons ça de même.
Ouais, c'est un peu l'effet des internets. Et ça fait un lien tout à fait avec la seconde nouvelle, le big data est un peu vorace.
Un peu, je rajouterais très vorace. C'est une bête, vraiment. On a vu grossir ça. Puis même, si on vient à l'ère orwellien qui a été dictée dans les années 80, donc George Orwell, quand il a laissé savoir qu'est-ce que ferait éventuellement une société orwellienne, c'est d'épier les faits et gestes de ses citoyens. J'en suis un qui travaille beaucoup pour... Je milite beaucoup sur la vie privée. Puis là-dessus, les gens ne voient pas la portée d'un geste que d'une entreprise qui vont s'adonner à les documenter davantage les faits et gestes, les us et coutumes même des gens. Dans l'article, très beau, très bel article du Journal de Montréal, très beau graphique qui illustre très bien avec des chiffres fantasmagoriques la portée et qu'est-ce qu'ils vont prendre. Puis les gens, encore là, j'essaie de l'expliquer du mieux possible. Qu'est-ce qui est l'impact? Quelle incidence a la perte de vie privée chez les gens? Ben, dans les médias, ça se voit pas. Si je prends juste un exemple, des trucs qu'on met dans les automobiles qui vont capter les trajets et les habitudes de conduite d'un automobiliste, et les compagnies d'assurance commencent davantage à miroiter que ça serait bon pour votre dossier d'assurance que vous ayez ça, on vous donne 30% de rabais. Parfait. Fait que là, ça veut dire que pour 30% de rabais sur une prime annuelle comme qui nous impose, ben ça veut dire qu'ils vont avoir plein contrôle, pour pas dire plein accès, où qu'on va, à quelle vitesse qu'on va et comment sont nos habitudes de conduite. Il y en a que ça va être nécessaire pour, s'ils se sentent épiés, ils vont se comporter différemment, ils vont bien conduire. Ça, c'est vrai, ça va aider peut-être la majorité des gens sur les routes, mais cependant, il dit souvent que les organisations s'engagent à ne pas partager les données avec des tierces parties. Je pense aussi, Nicolas, tu en as déjà vu dans le passé, qu'ils ne respectaient pas trop cette clause-là.
Ben, ils respectent au début, mais ils finissent par tout à coup, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, on va partager avec quelqu'un d'autre, on va monétiser cette information-là, puis pouf, l'information se ramasse dans les mains de quelqu'un d'autre, puis le contrat, finalement, entre l'utilisateur et la compagnie a changé de façon unilatérale.
C'est très difficile. Voilà, parce que c'est très difficile aussi de savoir quand est-ce que ça s'est passé, avec qui ça s'est passé. Fait que c'est là que c'est à la base, faut que le consommateur, faut que le citoyen sache où va ses données. Puis les contrats devraient être clairs là-dessus. D'autrement dit, puis ça, là, ça va aider beaucoup avec la loi européenne, le GDPR qui s'en vient le 25 mai prochain. Les compagnies qui vont se faire pogner à faire des échanges de données non autorisés, ben ils vont payer le prix. Puis c'est ça que je trouve qui va être très intéressant parce que au moins le citoyen va avoir un certain levier avec lequel, ben, en tout cas une aide qui va les protéger davantage, protéger la vie privée. En l'absence de cette vie privée-là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben c'est l'échange de ces big données, les données des big data qui éventuellement, vous allez faire une application pour un prêt, mais là, le prêt, eux autres vont considérer des nouvelles données sur votre situation financière qui garderont ça parce que vous avez fait telle et telle habitude de consommation et vous avez été dans 1, 2, 3, 4, 5 pays durant la période que vous disiez que vous étiez pas trop en moyen. Ben là, tout d'un coup, votre dossier de crédit va en être impacté parce que l'analyse prouve que vous avez pas pris le temps de travailler pour rembourser vos prêts à temps, vous avez fait une grosse vie sale et après ça, vous dites que vous voulez avoir la grosse maison, le gros char. Fait que c'est comme ça que là, ça va se recouper, puis veut pas, ben ça va vous impacter que lorsque vous voulez, vous, avoir accès à certaines ressources. Pire que ça, ben les gouvernements vont s'en servir aussi de ces big data-là. Il n'y aura peut-être pas juste votre nom et votre numéro de téléphone et votre adresse qui va vous identifier comme individu, mais ils vont avoir tout le reste en arrière et ça fera pas la tête à Pepino pour être capable de prendre des noms, des mettre sur des profils de personnes, mais au moins, eux autres, ils ont un indice que telle personne vivant dans telle ville, qui est un homme de race blanche entre 39 et 50 ans, voici qu'est-ce qu'il fait dans la vie.
Ben, on laisse beaucoup plus d'informations que ça à l'heure actuelle, donc c'était ça, c'est assez épouvantable. Ben oui. Puis faire un lien quand tu parlais des gouvernements, il y avait le scandale avec Cambridge Analytica qui est quand même sorti, qui a utilisé des informations semi-publiques pour influencer des élections, dans ce cas-ci aux États-Unis, mais probablement ailleurs aussi.
Ben oui, le Brexit, il était directement lié aussi avec cette pratique qui, à ce moment-là, ils ont influencé le vote pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Fait que là, ça remet encore une fois en question là, un processus qui se dit démocratique, alors que c'est influencé par toutes sortes de sources. Mais à la base, moi, ce que je déplore beaucoup, c'est l'ignorance des gens qui ne prennent pas le temps de s'informer correctement. Mais là encore, même les gens, ils s'informent avec envers des médias qui se disent réputés, bien souvent, on a vu par le passé que c'est les médias souvent sont polarisés dans un côté ou de l'autre de la nouvelle. Et c'est là que ça remet tout en question encore là, comment s'informer et où s'informer, parce que c'est difficile aujourd'hui de retrouver des agences de presse qui vont être totalement libres de pencher d'un bord ou de l'autre, autrement dit, de garder la neutralité et d'amener la nouvelle telle qu'elle est. Bien souvent, encore là, ça penche d'un bord puis de l'autre. Puis ça, des fois, c'est plate. Et il faut amener ça, il faut que le journalisme reste tel qu'il est, autrement dit, ramener la nouvelle telle qu'elle est et que les gens prennent la décision selon leur analyse, selon leur propre appréciation du travail journalistique. Ça, il faut que ça revienne, c'est certain, parce que sinon, on se retrouve avec des mises en situation un peu comme on a vu là, dans les conflits mondiaux récents, où ce que, ben, c'est juste qu'est-ce qui nous est montré de quelques correspondants qui viennent de quelques agences de presse qui sont, en tout cas, malheureusement, influencés de mauvaise façon, puis qu'on n'a pas toutes, parce qu'on a après ça, on apprend par des résidents qui sont dans ces théâtres d'opérations-là, qui eux autres, ils rapportent une histoire complètement différente de qu'est-ce qu'on se fait donner au petit écran ou dans les journaux. Fait que c'est là que faut que le journalisme reprenne son identité de neutre et de rapporter la nouvelle de la meilleure façon qu'il peut.
Ben, c'est sûr que dans un univers de fake news, maintenant qu'on a un nom accrocheur pour signifier la propagande, ça devient troublant de voir à quel point les journalistes, sont plus, peut-être pas les journalistes eux-mêmes, mais les réseaux, grands réseaux de diffusion de nouvelles. C'est sûr qu'on a le modèle américain où ils sont excessivement racoleurs, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir donner l'information que leur auditoire veut et non l'information qui est réelle ou ce qui se passe vraiment dans le monde. Donc, comme tu faisais naissance à des théâtres d'opération où dans lequel l'information n'est pas tout à fait la même que ce qui est diffusé. Là.
Et ça, c'est un peu normal, je veux dire. Tu as tout à fait raison. Là. Puis, il y en a pour des raisons. Durant l'opération, ils diront pas tout. Ça, c'est normal pour pas, à ce moment-là, brimer comment est-ce que les opérations se déroulent. Après coup, ça peut être corroboré par des observateurs neutres externes. C'est ça qui est l'idée. Mais on le voit ici aussi quand il y a des événements policiers où ce que le service de police dira pas tout durant que l'enquête a lieu. Puis après ça, il y a lieu à ce moment-là de laisser savoir qu'est-ce qu'ils ont vu, rencontré et qu'est-ce qui va se passer par la suite.
Tout à fait. Passons à une autre nouvelle. Les appareils médicaux ne sont pas nécessairement à la hauteur.
Ben, ça avait déjà été discuté, je crois, dans un autre podcast que vous aviez amené. Et voilà, fait que c'est un renouveau que l'industrie médicale laisse savoir que, encore une fois, les appareils biomédicaux pour faire du monitoring, donc de la surveillance de patients, et certains vont même jusqu'à la distribution de médicamentation, sont vulnérables parce que leurs connexions sans fil, au moment où ils ont été mises en circulation, ils étaient avec les protocoles qui étaient à ce moment-là réputés fiables. Mais comme on l'a vu en septembre dernier, avec l'attaque crack sur la façon de générer les clés de chiffrement entre un appareil et un point d'accès sans fil, et en passant, c'est tous les appareils dans l'industrie du sans fil qui ont été affectés de cette manière-là. Fait que qu'est-ce que ça leur résulte? Ça en résulte, c'est que les appareils biomédicaux, dans un particulièrement, sont vulnérables parce qu'ils sont difficiles à se faire mettre à jour. Ça a pris même, dans certains cas, au minimum, j'ai pu voir sur les différents dossiers, ça a pris un minimum de 4 à 5 semaines avant que les grands manufacturiers mettent sur le marché les correctifs, ce qui est très long. Très long pour une faille qui était gros, là, parce que ça veut dire que en interceptant la troisième phase de 4 d'échange de clés lorsque la session s'initiait, eh bien, à ce moment-là, on était capable de lire après ça le trafic, même si c'était encrypté avec WPA2, parce qu'on avait les clés de session, ben l'intercepteur pouvait lire la conversation entre l'appareil, soit l'appareil mobile puis le point d'accès. Fait que c'est là que ça ramène tout encore une fois à avant-plan la question de la fiabilité de la connectivité sans fil avec les appareils médicaux, mais surtout là, parce que ça traite la santé des gens, ben Caroline, il n'y a rien qui empêche la distance, puis ça a été prouvé que c'est réalisable. Des attaques, quelqu'un qui a vraiment l'intention malicieuse de faire dérouter la pompe à insuline d'un patient qui a lui a ça sur lui pour se maintenir en vie, littéralement, ben à ce moment-là, le patient peut en mourir. Fait que c'est là que, oups, comment est-ce qu'ils vont s'en faire, comment est-ce qu'ils vont en venir à bout? L'industrie, en tout cas, est très récalcitrant à mettre à jour ces appareils-là. Parce encore là, on parle de gros dollars qui souvent va au simple fait de mettre à jour l'appareil ou tout simplement la discarter puis d'en avoir une nouvelle. Mais là, comment on sait, le système de santé, ils ont de la misère à acheter une boîte de plaster puis la mettre à bon escient. Fait que là, si on parle d'appareils de gestion de patients, pour pas dire de distribution de médicaments, c'est là que ça c'est fatigant un peu. Et on sait déjà que c'est déjà quand même taxé comme système, fait que ça devient difficile après ça de voir à toutes ces petites affaires-là. Toutes les techs que je connais dans le milieu de la santé sont submergés de faire marcher ça au poil à chaque jour. Fait que quand il arrive des situations comme ça où ce que là faut qu'il y ait un double de prudence, parce qu'il y a moyen de se prévenir que ça le pire arrive. Oui, c'est d'isoler le plus possible et de minimiser les accès vers l'extérieur et garder la communication qu'à l'intérieur de l'institution de santé. Ça, c'est de prime abord, ça va être la première étape, je crois, qu'ils vont faire, puis c'est les meilleures recommandations qui existent. Mais ultimement, il faut que l'industrie, ceux qui fabriquent ces appareils-là, bien, qui développent des meilleures techniques de sécurité, puis qui parlent avec le reste de l'industrie, parce qu'à un moment donné, si tu développes un produit, c'est le fun, c'est pratique, parfait, on va commercialiser. Oh, c'est vrai, il faut rajouter la sécurité, mais il faut qu'ils arrêtent de faire ça de même. Il faut qu'ils pensent sécuritairement à la base, et ça va être beaucoup plus facile de développer un produit complet s'ils mettent la sécurité en avant-plan et non après.
Ouais, tout à fait. Puis de toute façon, c'est ça. C'est parce que c'est des problèmes de diesel. Maintenant, on a déployé dans le champ plein de machines qui sont pas sécuritaires parce qu'ils n'ont pas fait cette analyse-là a priori, ou en tout cas cette correction-là a priori. Donc, exact. On se retrouve avec des gens qui ont des implants, qui sont dispendus à changer et qui sont peut-être dispendus à l'acquisition aussi, vulnérables, mais maintenant qui vont être éternellement vulnérables à moins de l'application de correction. Et le problème, c'est que c'est pas comme Internet, on peut pas appliquer la correction à distance. Faut amener le patient dans un cabinet de médecin pour pouvoir le faire. Donc, tout le délai de transfert de ça est excessivement long aussi. On arrive dans un contexte aussi, si on peut prendre dans le fond le modèle automobile, les rappels, dans ce cas-ci, ça peut être très long et très coûteux à effectuer. Donc, l'industrie sera pas très tentée à aller dans cette direction-là et d'appliquer des corrections, en tout cas du moins de déployer les 10 correctifs pour qui menacent quand même la vie des gens. Là. C'est encore plus grave en ce sens-là.
Tout à fait, oui.
C'est très. C'est quelque chose. Tant qu'à parler de Wi-Fi, Volkswagen a certains problèmes aussi avec leur Wi-Fi.
Oui, des modèles récents de Volkswagen où ce qui donne la capacité de faire du Wi-Fi à l'intérieur du véhicule, là, ce qui est fortement pratique, je veux dire, avec tous ceux qu'on transporte à l'intérieur, on leur donne une capacité qu'ils aient accès à un Wi-Fi qui est avec une petite porte à l'intérieur du véhicule, donc tout le monde reste connecté, c'est fantastique. Cependant, il faut pas oublier qu'une chose, qu'un Wi-Fi, lorsque ça transmet, ça va dans toutes les directions. Évidemment, dépendamment de l'antenne, mais typiquement, tout le monde a une antenne omnidirectionnelle, puis ça rayonne 360 degrés. Si on prend un point d'accès sans fil typique, ça va rayonner sur quelques centaines de mètres. Là-dessus, il y a aussi l'inverse qui est possible. Donc, quand on dit qu'on veut se connecter au Wi-Fi de ce véhicule-là, ben on peut, à ce moment-là, y gagner accès. Fait qu'il y a une firme de cybersécurité hollandaise qui ont fait une étude et ils ont vu sur des modèles de Golf GTE, des Audi A3, le système d'entertainment, donc de... Comment qu'on appelle ça déjà en français? De
Info. En tout cas, ça a un terme bizarre. Des fois, les traductions n'ont peut-être pas tout à fait la même connotation.
Mais je crois que tu as bien dit l'entrée, donc l'infotainment du véhicule. Donc, qu'est-ce qui passe à travers la radio puis être capable donc de voir certainement des fois des vidéos, des DVD, d'ailleurs faire capacité Wi-Fi. Et par cette capacité Wi-Fi-là, ben, ces chercheurs-là ont été capables d'entrer et de gagner l'accès root, donc l'accès ultime au système de connotation Unix là, qui se trouve à l'intérieur du véhicule. Et ça, j'en avais fait l'exploration du mien ou ce que j'ai acheté là, un an et demi. Et que j'ai été surpris de trouver un disque dur de 60 gigs à l'intérieur, puis je comprenais mal pourquoi, je comprends toujours mal pourquoi qu'il y a 60 gigs de disque dur dans mon véhicule, alors que devrait pas avoir grand chose d'entreposé là-dedans. Mais ça, c'est une recherche que je continue. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé aussi en faisant cet accès non sollicité, non voulu? Ils ont été capables d'aller mettre la main sur l'information du véhicule, donc tout ce qui traite l'information que quelqu'un va rentrer, ses coordonnées GPS vont rentrer, le carnet d'adresse avec qui a parlé au téléphone, etc. Donc, c'est toutes des informations si quelqu'un se dit à l'abri de ça. Parce que là-dessus, sur un véhicule automobile, faut pas oublier une affaire. Ce sont deux bosses de communication principaux qui existent sur le véhicule. On a un présent pour l'infotainment, autrement dit pour la connectivité vers un réseau cellulaire, offrir le Wi-Fi et offrir des services de base de bas niveau. L'autre boss d'information, quand on parle d'un boss, c'est vraiment un réseau séparé, c'est tout celui qui touche à tout ce qui est l'automobile. Donc, les freins, le moteur, tout ce qui la transmission et pour l'opération du véhicule. Deux choses vraiment séparées, mais il reste toujours bien que c'est des éléments logiciels qui séparent ça. Et comme on a vu avec le 3 ans, là, les essais qu'ils ont fait avec les Jeep qui étaient à travers des prix à distance, ça démontre qu'il ne manque pas grand-chose que les liens sont possibles entre l'infotainment et les opérations du véhicule. Or, dans le cas de Volkswagen ici, ça touche vraiment la portion des services d'infotainment, on va garder ce terme-là, et qui à ce moment-là, évidemment, Volkswagen a laissé savoir qu'il va prendre en compte, ils vont corriger la situation, comme à l'habitude, mais ça reste que c'est troublant. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on venait de dire sur le fait qu'il y a du développement qui est fait en industrie, et ça m'échappe à chaque fois. Si on est des gens en sécurité de l'information, qu'on est capable de faire ce genre d'analyse après un produit qui est complété et qui est mis sur le marché, qu'est-ce qui empêche ces compagnies-là, au moment où ça sort de la ligne de production, de faire ces tests-là avant de les amener chez les concessionnaires et les véhicules? Je peux pas croire qu'ils savent pas engager des gens pour faire ce travail-là. Ça m'échappe bien de ça.
Ben, surtout à l'envergure de ces industries-là, c'est un peu étonnant. Puis de toute façon, on prend même dans l'aviation aussi, il y a eu quelques des rumeurs de failles dans certains systèmes. Il passe à travers tellement de paliers de contrôle de qualité. Il est étonnant qu'il n'y ait pas eu un palier de contrôle qualité au niveau de la sécurité comme ça devrait être, justement, pour pas que ce genre de choses-là se passent.
C'est en effet
très fascinant. Passons à la nouvelle suivante. Intel et probablement ARM aussi vient encore d'être un peu affecté par la suite de Spectre Meltdown. Il y aurait Spectre NG qui serait arrêté de divulguer, c'est-à-dire une nouvelle série de failles de type Spectre qui aurait été mise au jour par des chercheurs allemands. Et à leur dire, ces failles-là seraient beaucoup plus dangereuses que la première génération de failles Spectre. C'est de plus en plus troublant de voir la quantité de recherche. Pas troublant qu'il y ait de la recherche, mais troublant qu'ils trouvent autant de choses que ça sur les processeurs, autant Intel que ARM. Puisque ces deux familles de processeurs-là couvrent à peu près la quasi-totalité de ce qu'on a en tant que consommateur et qu'on utilise en tout cas dans la plupart des entreprises et la plupart de tous les objets dans lesquels ils nous entourent. Donc, on a construit de toute apparence sur des sables mouvants.
Oh oui, et move beaucoup, si on peut utiliser le terme comme ça. C'est ça qui est comique, puis on dit comique parce que c'est drôle, dans le sens que c'est bizarre, et que on en arrive à ce que c'est vraiment tout système informatisé, ils ont fondamentalement ces processeurs-là, soit d'AMD, soit d'Intel, et que là, ils ont vraiment trouvé ça me renverse encore qu'aujourd'hui, à ce jour, puis on parlait tantôt de contrôle de qualité, mais là, c'est un élément majeur, c'est au design de ces processeurs-là que ces failles sont présentes, et qui, oui, on va en avoir des problèmes avec ces deux failles-là qui ont été trouvées au mois de janvier pour les 20 prochaines années, parce que oui, des fois, il y a des systèmes ordinés qui restent en fonction pendant 20 ans. Fait que ça peut être pendant encore une vingtaine d'années, à moins qu'il y ait un programme, évidemment, fantasmagorique qui élimine tous les processeurs qui sont fautifs comme ça. Ça me surprendrait beaucoup parce qu'il y a encore des guichets automatiques qui utilisent Windows XP, pour te donner une idée, mais qui on va être pris avec ça pendant un méchant bout de temps et ça va amener éventuellement beaucoup plus de problèmes parce qu'il y a certainement de ces systèmes-là qui ne seront pas corrigés, ne seront pas patchés, comme on dit dans le jargon, et qui vont laisser la porte grande ouverte à l'exploitation.
Bon, de toute façon, Intel a dit clairement qu'elle n'allait pas patcher une certaine série de leurs processeurs, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, il y en aura des vulnérables pendant longtemps. Jusqu'à l'ex.
Puis qui, oui. Oui, puis qui va collecter, dans le sens qui va s'informer si son système est vulnérable ou pas. On vient encore avec cette même rhétorique, cette même façon de faire, où ce que il y a des gens qui vont dire, ben j'ai un système, ça m'a pas coûté cher, je l'ai, ma commode, ça va bien, mais ça va rester là, alors que dans le fond la personne va être complètement vulnérable davantage à cause de ces failles physiques là. C'est pas juste logiciel, mais bien physique.
Ça affecte de façon très dure les choses. On va jusqu'aux caisses enregistreuses, nos télévisions, nos téléphones.
Oh oui.
C'est partout. Donc, on est même nos autos maintenant, je vais faire un pont avec le sujet précédent, les objets médicaux. Fait que tous ces objets-là vont être de façon éternelle vulnérables jusqu'à leur extinction. Et comme tu disais, qui vont être là probablement pendant une vingtaine d'années, là, pour les gens qui ont connu l'an 2000, on disait, ah non, les systèmes ne passeront jamais jusque-là, puis ils sont avérés que les systèmes ont fait plus longtemps que ce que les gens avaient prévu.
Hey, c'est capotant, là. Puis en parlant de ça, ça me fait penser à l'industrie aéronautique, le système de réservation, là. C'est encore un système qui a été inventé dans les années 60, là. Puis qui tient par de la broche puis du tape. J'ai pas de misère à dire ça n'importe où. Parce que les situations que les gens vivent dans les aéroports où ce que, bang, il y a une panne informatique qui est déclarée, telle compagnie aérienne ne sont plus capables de faire réservation, suivre les bagages, etc. Ben, ça, aujourd'hui, là, ça va loin, ça a un impact toujours majeur, ça va même mondial parce que l'interconnectivité, elle est mondiale dans ce domaine-là, on le sait. Mais, encore une fois, le cœur des opérations repose sur ces vieux systèmes-là. Et pourquoi ils sont pas capables de changer du jour au lendemain à un nouveau? Ben, parce que c'est la ramification des systèmes qu'elle est partout. Elle est tellement complexe que ça se fait pas en un tour de doigt, ça, là, pour pas dire un tour de main. Fait que c'est là que ça devient assez difficile de comprendre des fois que, ben, en tout cas, quand t'es pogné dedans, tu comprends pas plus parce que, je veux dire, t'es pris, t'es à la merci de ces vieilles affaires-là et qu'ils ont juste pour solution jusqu'à présent de s'excuser, mais au lieu de faire des profits de centaines de millions par année, par mois, peut-être, là, ils devraient peut-être investir un peu plus pour remplacer ces vieilles affaires-là.
Ouais, tout à fait. Là. De toute façon, c'est très dispendieux. Ils ont tellement empilé. Puis c'est ça, c'est l'empilement de codes et de systèmes et de choses qu'on suivit qui rend ces systèmes-là très dispendieux à changer et à moderniser. Là. C'est un travail complètement fou, mais on a une dette technologique qu'il faut payer, sinon ça va venir pour nous. Ça vient toujours par nous rattraper.
Oh, j'aime le terme. C'est bon, ça, oui.
Oui. Routeur GPON vulnérable en Europe-Afrique.
Oui, mais un peu en Amérique du Nord, je devrais dire aussi. Des routeurs GPON, ça commence à faire son apparition là-dedans. C'est des routeurs pour l'utilisation domestique d'Internet à travers la fibre optique. Et récemment, ben, il y a une couple qui ont été documentés comme étant vulnérables à se faire exploiter. Donc, quelqu'un à distance, par une adresse publique, serait capable de rentrer, c'est le groupe VPN Mentor qui ont fait la découverte. Et à travers le moteur de recherche Shodan, ils ont été capables de détecter des milliers, des dizaines de milliers de ces routeurs-là qui sont vulnérables à l'accès. L'accès pour dire qu'ils sont capables d'être prêts à distance et après ça être réécrits à l'intérieur et devenir des appareils qui peuvent être utilisés dans des moyens non souhaitables, mettons comme dans des botnets, des choses comme ça. Fait qu'on parle de chiffres, exemple, il y en aurait moins de 500 000, 480 000 pour être précis au Mexique, 390 000 au Kazakhstan, 145 000 au Vietnam. Ça, c'est juste des recherches de base, mais si on extrapole ça, on peut aller vraiment là plus loin que... Puis quand j'ai vu en Afrique les termes, j'avais surtout aussi en tête là, les incidents récents avec les routeurs Mikrotik qui ont été utilisés, qui ont été dévoilés par Kaspersky, mais qui étaient dans le fond, il avait été investi aussi par le Special Operations Command des États-Unis pour faire de l'espionnage et du traquage surtout de téléphones cellulaires et d'appareils Wi-Fi qui avaient été détectés dans des contextes de terroristes, puis que là, ben en observant les Mikrotik, ben ils savaient où ce qui s'en allait. Même chose peut être accompli ici avec les routeurs de GPON, donc les routeurs de fibre optique. Et ici, en Amérique du Nord, on en commence de plus en plus à en avoir ou ce qui sont à ce moment-là distribués, utilisés par soit les compagnies de câbles, les compagnies de télécom comme le Bell Fibre. Finalement, ils utilisent le terme fibre dans sa vraie raison et ils amènent le signal par fibre optique jusqu'à la maison. Fait qu'est-ce que ça donne comme incidence pour l'utilisateur? C'est que l'utilisateur pourrait perdre accès avec l'accès à son routeur, mais surtout pourrait créer, pourrait être victime d'attaques de redirection de DNS qui, à ce moment-là, amènerait permet à l'utilisateur, lorsqu'il va sur des sites bancaires, par exemple, de se retrouver sur des sites à connotation, à imitation d'un site bancaire et dévoiler ses informations personnelles si il fallait utiliser l'information de son compte de demande. Fait que ça, c'est des techniques qui sont utilisées de... On a vu quand même une bonne recrudescence des dernières années parce que de plus en plus, avec des appareils, des moteurs de recherche comme Shodan, ils exposent davantage les appareillages vulnérables et peuvent être exploités à ce moment-là pour contre l'utilisateur. Fait que encore une fois, on en est pris comme consommateur avec des appareils qui sont fondamentalement pas fiables, mais on n'a pas le choix. On est vraiment à la merci de l'industrie, puis l'industrie encore là se traîne les pieds dans un contexte comme ça, parce que eux-mêmes, souvent, je reviens à mon exemple tantôt avec les fabricants automobiles. Fabricant automobile, il vend sa marque, mais il va aller chercher l'appareillage électronique d'un third party, autrement dit d'un troisième parti, puis il l'intègre dans son véhicule. Quand il arrive dans son véhicule, il demande à l'autre, hey, t'as-tu fait ça comme je t'ai demandé? L'autre, il dit oui, parfait, le contrat est rentré, puis ça va bien, mais la sécurité n'est jamais vérifiée outre mesure. Même chose avec les appareils de télécom comme ça, ils se font dire, ça devrait marcher. Ça marche fondamentalement, le signal optique est là, il est interprété, le signal rentre, tout le monde est heureux, ils ont accès à Netflix et tout. Mais à la base, c'est que c'est ça, il y a d'autres fonctionnalités qui sont pas checkées et ces vulnérabilités-là sont mises au grand jour éventuellement pour être à mesure, au fur et à mesure d'apparaître comme étant quelque chose de grave. Parce que quelque chose de grave qui se passe, c'est comme tout ce qui est des modems chez Deutsche Telekom l'année dernière, ils se sont fait prendre comme ça, même genre de vulnérabilité, où ce que l'accès administratif pouvait être pris à distance et justement les routeurs domestiques ont été réécrits pour participer à des attaques de données de service, faire partie d'un botnet. Fait que c'est là que ça va dans l'imaginaire de où est-ce qu'on peut aller avec tout ça, parce qu'ultimement, de plus en plus, tous nos systèmes d'information dans la société sont interconnectés et on dépend de plus en plus. C'est-à-dire, on veut une société qui va être le moins de papier possible, mais si on n'a pas de papier, il faut l'avoir l'information à quelque part, on l'a par l'ordi, et pour y accéder, ben il faut avoir ces moyens d'accéder à l'information en temps.
Ouais, c'est moyen technologique là, puis dans le fond, ce qui est troublant, puis tu en as fait mention, c'est que tout ce qu'on voit sur Internet nous est rapporté que par les équipements, et ces équipements-là viennent nous rapporter de la fausse information. On est comme encore plus en décontact ou en absence de corroboration possible sur la réalité de ce qu'on fait sur Internet. Parce que on redirige les DNS ailleurs, on retourne la mauvaise information, pouf, on est fini, puis on croit qu'être dans un endroit légitime, puis ensuite, on est littéralement ailleurs et... On est complètement là, à la merci des autres, à la merci de la machine aussi. Là. C'est un peu de reprendre les analogies de la matrice où on est dans un univers dans lequel on contrôle rien puis on met une réalité devant nos yeux.
Exact, ben oui.
On doit prendre tel quel.
Puis de voir est-ce que là, c'est où est-ce qu'on est réellement. Tu sais, quand tu disais, on s'en va sur un site en quelque part, puis est-ce qu'on est vraiment sur le bon site? Ben, on est à la merci de dire que la cryptographie, si elle est présente, jusqu'à un certain point, ils vont pouvoir nous aider à faire la vérification pour s'assurer qu'on a établi une communication avec un site légitime. Puis s'il est jugé légitime, c'est parce qu'un troisième site, une troisième compagnie va avoir fait la vérification. S'il n'y a pas ça de présent, encore là, c'est on parle avec un tierce parti, l'autre parti en face de nous, puis on assume que c'est la bonne personne. C'est ça que ça devient très difficile.
Ouais, surtout que l'humain est fondamentalement en fait pour faire confiance à autrui. Fait qu'on est dans un univers où on joue beaucoup sur la façon que le cerveau est fait, puis qu'on vient tromper les gens à partir de ça.
Tous les campagnes massives d'hameçonnage, là, que c'est exactement comme tu viens de décrire que ça se passe, exactement.
Ouais, c'est de plus en plus sophistiqué.
Oui.
Passons à la dernière nouvelle qui est Twitter a demandé à tout le monde cette semaine de changer leur mot de passe parce qu'ils ont découvert dans leurs journaux d'événements que les mots de passe passaient en clair. C'est un drôle de faille. C'est la même faille qui s'est retrouvée chez GitHub. Je pense que les développeurs chez Twitter ont regardé puis ont découvert le même problème. Donc, c'est un drôle d'élément, savoir que le mot de passe, à quel moment, puis j'ai pas lu dans de grands détails pourquoi, mais en quel moment le mot de passe se retrouve en clair dans les journaux et dans quelle mesure, dans le fond, le mot de passe est stocké de façon sécuritaire, donc de façon non réversible. Ça soulève un paquet de questions. Puis c'est une gaffe assez majeure pour une compagnie d'envergure de Twitter de ne pas avoir attrapé ça avant.
En même temps, c'est une bonne nouvelle qu'il l'ait prise, qu'il l'ait détectée. Ouais. Puis, vois-tu, chez GitHub, eux autres, c'est avec à partir d'un audit, leurs audits réguliers qui ont trouvé la faille qui faisait en sorte que le mot de passe était mis en cache vraiment dans un avant d'être chiffré. Fait que c'est un genre de, encore là, c'est une mise en mémoire temporaire, mais encore là, ça s'explique mal. Parce que l'importance de mettre un mot de passe, le crypter le plus rapidement possible, ben c'est justement d'être ne pas être capable de le voir directement en circulation dans le système. Fait qu'en soi aussi, ça l'a rappelé, hein, puis c'est drôle que ça a été publicisé au jour du mot de passe, qui était justement la semaine passée. Ouais. Et dans ce jour de mot de passe-là, ben, c'est pour rappeler encore aux gens de d'utiliser un mot de passe complexe, pas facile à trouver et en même temps différent à chaque compte qu'on a. Et dans ce cas-là, ben, il rappelait de changer le mot de passe. Fait que oui, une fois de temps en temps, c'est très bien de changer son mot de passe, de garder une complexité élevée. Et par contre, tous les gens, comme j'en suis un, qui utilisent l'authentification à deux facteurs, ben, ils ne t'ont pas directement affecté. L'authentification à deux facteurs, c'est le moyen avec lequel ben, on rentre notre mot de passe et on se fait donner une clé d'accès par un moyen externe. Généralement, ça va être envoyé via le SMS ou un courriel. Et après ça, ben, le code qui est généré là, il est bon pour une courte période de temps. On le rentre sur la page web et ça valide que, encore là, on devrait être la bonne personne qui doit y avoir accès. Fait que ça, c'est un gage de garantie. En tout cas, c'est une complexité supplémentaire ajoutée à la méthode d'accès pour authentifier la personne qui demande d'accéder à une ressource. Ce qui fait en sorte que ça aide à ce que si le mot de passe est compromis, ben il y a une autre couche de protection avant d'avoir accès au compte. L'incidence directe, ça aurait été compromis, ces mots de passe-là, ben on l'a vu, des comptes Twitter avec une belle fenestration, autrement dit, mettons comme US Central Command, eux autres, qu'est-ce que ça les est arrivé? C'est le page frontispice, il y a eu un changement de graphisme, des messages à connotation haineuse ont été diffusés, donc ça blesse un peu la réputation de l'organisation, puis ça fait parler tout le monde pas mal. Fait que si ça arrive pour un particulier que son compte Twitter il est dérangé parce qu'il y a une divulgation de mot de passe, ben c'est son impact c'est un impact réputationnel dans le fond qui en subit, mais je dirais sans plus. Cependant, encore là, c'est comme nous autres dans le domaine de la sécurité d'information, ben on veut pas devenir le cordonnier mal chaussé c'est pour ça je crois qu'on en parle aujourd'hui ici, Nick.
Tout à fait, ben c'est ça là, c'est c'est bien qu'il l'ait divulgué. C'est une drôle de faille. Selon leur dire, le mot de passe n'aurait pas été divulgué. Mais en plus, c'est drôle parce qu'on fait beaucoup d'efforts justement de s'assurer que nos mots de passe sont bien hachés, qu'ils sont non réversibles, qu'ils sont ça. On se retrouve dans un contexte où, pouf, ils passent dans les journaux en clair. Donc, ça donne une situation un peu... Mettons qu'il y a eu dans le processus quelqu'un qui a mal suivi le processus dans l'ordre.
Définitivement. Puis au moins, c'était pas à l'application. Si ça aurait été encore là à l'application au niveau de l'usager, là, c'est sûr, là, ça aurait été le branle-bas de combat pour revoir toute la façon de faire. Mais là, c'était vraiment chez les systèmes de Twitter. Puis encore là, moi aussi, j'explique mal comment est-ce que tout d'un coup, ils découvrent ça, alors que ça devait être en place pendant depuis longtemps. Là. Ça se peut pas que ce soit un bug de programmation de la veille, puis que là, hop, ça c'est vrai, on a oublié de faire ça. Voyons donc.
Effectivement, pour moi, comme tu dis, le deuxième facteur reste toujours la clé, justement, pour s'assurer pour se protéger comme individu ou comme compagnie qui possède un compte dans ces systèmes-là. C'est justement s'éviter de se faire pincer. Donc, ça terminerait nos nouvelles pour aujourd'hui. C'est un mot de la fin?
Oui, il s'agit de rester éveillé parce que ça en vient de plus en plus, je veux dire, des mises à jour qui s'en viennent, des nouveaux produits qui vont apparaître. Fait que quand je dis ça, c'est que je vais prendre l'exemple ici de macOS où ce que le High Sierra est encore une fois, il a été récemment mis en lumière où ce qu'il y a des grandes vulnérabilités qui sont découvertes, alors que c'est le dernier des systèmes d'exploitation. Puis sa version, juste une version avant High Sierra, c'est-à-dire Sierra tout court. Ben lui, il est encore plus stable que le nouveau qui est sur le marché. Fait que ce que je vois de plus en plus, c'est que les OS sont de plus en plus complexes à programmer, mais de plus en plus les fabricants, que ce soit Microsoft, Apple, Google même, lorsqu'ils mettent des systèmes d'exploitation sur le marché, ben encore une fois, c'est pas mal le but de notre discussion aujourd'hui, c'est que à la base, faut qu'ils intègrent davantage de sécurité et de vérification avant de le mettre sur le marché pour éviter le pire, parce que comme on a vu dans les 20 dernières années, à chaque fois qu'un système d'exploitation était mis sur le marché, on en était quasiment le guinea pig, autrement dit, le rat de laboratoire, puis que ont été submergés de patchs de rustines, on peut l'appeler en français. Fait que le patch Tuesday, on a vu aussi qu'il y avait un paquet de patchs qui ont sorti cette semaine, qui sont considérés out of band, donc en dehors du cycle normal de correctif. Ce qui fait en sorte que c'est le fun, parfait, ils découvrent des failles, c'est numéro un. Mais en même temps, il faut se rappeler que, t'as un peu, là, pourquoi qu'il y en a tant qui sont découvertes, là, c'est la partie que c'est intéressant de voir que, minute, là, il y en a beaucoup trop, tout d'un coup. Et oui, il y a un dernier point que je voudrais amener, Nick, que j'ai oublié de mentionner dans l'agenda du jour, c'est la campagne d'hameçonnage au G7 que de plus en plus, on se rapproche, c'est-à-dire de plus en plus près de l'événement en question. Et l'événement du G7 qui aura lieu à Charlevoix entre au 8 et le 9 juin prochain, ben, les autorités du gouvernement fédéral au Canada ont mis en garde les gens, comme quoi qu'il se pourrait que les gens, principalement à Québec, à l'entour de Québec ou à l'entour de Charlevoix, reçoivent des pourriels, reçoivent des campagnes d'hameçonnage. Et la raison est bien simple, c'est parce que les malfaisants voudront peut-être prendre contrôle de leur système, prendre contrôle à ce moment-là, ou tout simplement polluer l'existence des gens à l'entour pour encore là faire passer le message à connotation politique. Tout ça encore là à travers des systèmes non protégés ou mal protégés. Fait que ça, je me dis, on va avoir un en jaser, Nick, parce que d'après moi, dans les semaines à venir, il va se manifester, non pas des manifs physiques. Il va avoir des manifs physiques, oui, mais dans cette année, je crois qu'il va y avoir davantage de manifestations dans le cyberespace parce que c'est encore là, ça devient des cibles beaucoup plus faciles que sur le terrain parce qu'ils ont réellement fortifié le Charlevoix. Fait que s'ils veulent faire un dérangement à Charlevoix, ça va être mauditement plus difficile. Alors, ils vont peut-être s'en prendre à des moyens un peu plus poreux, un peu plus faciles qui devraient être à ce moment-là.
Moins mal de s'en prendre à un site web que s'en prendre à un policier anti-émeute, là, disons. Fait que je pense que...
Définitif.
c'est un peu où le gaz lacrymogène et ainsi de suite, ce n'est pas une situation très agréable. Donc, c'est plus en part de la maison et un peu mieux. on vous était bien très, très vigilants parce que là, la quantité, disons qu'on a une première moitié de 2018 qui est très vulnérable. Ça va exiger en tant qu'individu et corporation de mettre beaucoup d'énergie sur la correction et l'augmentation des capacités défensives. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.
Bonne semaine!